Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, comment vas-tu?
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, et toi?
Très bien, très bien. Très heureux de continuer cette série avec toi. Alhamdulillah, on puisse continuer un maximum. Donc, pour rappel, à travers cette série de podcasts, le professeur Fathallah et moi-même revenons sur certains passages du Coran et de la Sunna, sur les questions qu'ils soulèvent par rapport à notre quotidien et ce qu'on peut vivre au jour le jour. Alors, en ce moment, on est en train d'étudier, de voir la sourate Al-Hujurat en plusieurs parties. La semaine dernière, on avait parlé des versets 1 à 3, et aujourd'hui, on va continuer avec les versets 4, 5 et 12. Alors, je vais te laisser la main, Fathallah, peut-être expliquer pourquoi on saute des versets aussi.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Je vais lire tout de suite le verset 12 et j'expliquerai après pourquoi on fait un lien de cette manière-là. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. En fait, on avait vu la dernière fois le passage introductif de Sourate Al-Hujurat, qui, je le rappelle, est une sourate qui détermine les relations entre les croyants. Et au cœur de la sourate, on le verra plus tard, il y a un verset important qui parle de la gestion des conflits entre les croyants. Et en réalité, pour sortir d'une situation de conflit, ce verset qui est un passage central de la sourate, on va le comprendre en remontant sur les enseignements qu'il y a en amont et en aval de la sourate, puisque c'est une sourate qui est cyclique, dans le sens où les passages qui sont au début font écho aux passages qui sont à la fin, les passages qui sont en seconde position font écho à des passages qui sont en avant-dernière position, etc. Mais ça, on le verra plus clairement lors de, je pense, la dernière séance qu'on fera sur sourate Al-Hujurat, où ce sera plus clair. Et donc c'est pour ça que là, on passe des versets 4 et 5 au verset 12, parce qu'ils se font écho les uns aux autres. Et ces passages-là, en réalité, autant on avait vu la dernière fois que dans toute situation de vie, dans toute épreuve de vie, et notamment dans les conflits, ce qui est important, c'est de toujours se rappeler que l'épreuve vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de d'abord, avant d'être attentif à la personne qui est en face de nous ou à la difficulté qu'on a en face de nous, d'être attentif au fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle, puisque c'est lui qui décrète l'épreuve. Et d'abord de commencer par lui répondre à lui avant de vouloir répondre à X ou à Y ou à qui que ce soit d'autre, ou même à soi-même. Sauf que ça, c'est une chose qui est certes très importante et fondamentale, mais il y a quand même un certain pragmatisme dans la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque et dans la manière dont le prophète alayhi salam nous a transmis le message, qui veut que dans une situation quelle qu'elle soit, on a des leviers qu'on doit pouvoir actionner pour aussi pouvoir solutionner les problèmes. Ça n'est pas qu'une question spirituelle au sens mystique du terme. Certes, s'asseoir, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, lui parler, prier la nuit, etc. Toutes ces choses-là sont importantes, mais la spiritualité, elle se traduit dans des actes. Ça se traduit dans un certain comportement. Et là, ce qu'on va voir dans ces versets, c'est que notamment dans le premier passage, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du fait que certaines personnes, d'ailleurs les circonstances de révélation, sont liées à une tribu qui était venue interpeller le prophète alayhi salatu wassalam. Et on dit qu'il arrivait souvent que les tribus fassent ce genre de choses. Et elles venaient, elles interpellaient le prophète alayhi salatu wassalam, notamment dans des moments qui ne sont pas des moments appropriés. On considère que le moment de la sieste est un moment très important chez les Arabes. Et ils venaient, ils l'appelaient de derrière les appartements comme si c'était un dû et un devoir de sa part que de sortir et de leur répondre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, gêné, le faisaient, ils sortaient, ils venaient, ils répondaient à leur appel. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'ayant pas djinn à dire la vérité, a révélé ces versets pour recadrer ben, ces bédouins, mais nous recadrer nous aussi sur la place de la vie privée. Et en réalité, ce que ce passage nous enseigne plutôt, c'est que dans tout conflit, certes, il faut d'abord être attentif à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et à essayer de comprendre pourquoi peut-être il y a des enseignements spécifiques pour nous dans cette épreuve, mais il faut aussi à un moment donné régler le conflit. Et l'une des causes importantes qu'il va falloir essayer de traiter et à laquelle il va falloir porter attention, c'est l'espace privé. Est-ce qu'on est attentif à respecter l'espace privé de chacun? Dans ce premier passage, où Allah a dit, ceux qui t'appellent à haute voix derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. On est clairement dans la préservation de l'espace privé. Et on a énormément de textes du prophète alayhi qui abondent dans ce sens-là, et même d'autres versets du Coran qui nous enseignent qu'on n'a pas le droit de rentrer chez quelqu'un sans demander son autorisation. Le prophète alayhi tellement était attentif à ça qu'il nous enseignait qu'on devait. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas forcément de porte, il y avait des rideaux devant les entrées des maisons. Et on pouvait voir ce qui s'y passait. Et le prophète alayhi avait l'habitude de se décaler pour ne pas toucher à l'intimité des gens. Et donc cet espace privé, il est très très important dans la tradition musulmane. Et souvent, les conflits naissent du fait qu'on ne respecte pas l'espace privé d'autres personnes, notamment dans les couples, par exemple. Un couple, on peut penser que parce qu'on est marié, qu'il y a une sorte de fusion et qu'on a le droit d'interférer sur la vie privée de l'autre personne, qui peut avoir ses relations d'amitié, qui peut avoir son espace privé, tout simplement, quoi que ça touche et quoi que ça concerne, que ce soit son activité professionnelle ou ses amis ou autre chose, ou même sa famille. Et ça, il faut faire très attention. On a même dans les relations familiales parfois des parents qui vont aller espionner les téléphones de leurs enfants. Hein? Alors que ça fait partie des choses. On touche même à l'honneur de la personne. C'est-à-dire que quand on va toucher peut-être aller voir les péchés de la personne, c'est quelque chose de grave. C'est-à-dire que le prophète Aïssa nous enseignait, parmi les choses qui étaient importantes, hein, et notamment dans Hujjat al-Wada', dans le pèlerinage d'adieu du prophète Aïssa, quand il avait insisté en disant que. En interrogeant les compagnons, dans quel lieu sommes-nous, en insistant sur le fait que nous sommes dans un lieu sacré. Ensuite, il insistait sur quel jour sommes-nous, dans quel mois sommes-nous, pour leur rappeler qu'on était dans une période sacrée. Et il insistait à la fin en leur disant, le sang, les biens et l'honneur de chaque musulman est sacré. Hein? Et d'autres textes vont dans ce sens-là et abondent dans le fait que l'honneur du musulman est sacré et celui qui préserve l'honneur d'un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala préserve son honneur, et celui qui au contraire, casse l'honneur d'un croyant en divulguant ses défauts, ses péchés, etc. Allah subhanahu wa ta'ala le dévoile. Donc ça, il faut faire très attention que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Donc on a tous be besoin d'être mastour, man satara musliman, satara Allahu fid dunya wal akhirah, celui qui couvre dans tous les sens du terme hein, un musulman, mais dans le sens particulier de couvrir ses défauts. Allah subhanahu wa ta'ala voile ses défauts dans ce monde et dans l'autre. Sauf que la vie privée, bah, c'est certes, bah, on a droit à son téléphone, on a droit à un espace qui peut nous être privé, on a droit à des choses qu'on peut écrire qui sont notre espace privé et personne n'a le droit d'y rentrer. Et ça, on se doit de le respecter et parfois certains conflits naissent de ça. Par exemple, vous avez dans des conflits de couple, j'ai appris que mon conjoint a fait ceci ou a fait cela, comment tu l'as su? Bah, j'ai fouillé dans son téléphone. Ouais, mais la faute, elle vient de toi. D'ailleurs, il y a un récit qu'on rapporte, alors certains contestent l'authenticité, mais dans l'enseignement et dans la morale, il va en parfaite adéquation avec les autres enseignements que je viens d'évoquer. Mais sauf que là, c'est une petite histoire. Et donc, c'est parfois par les petites histoires, on arrive mieux à comprendre. On dit qu'un jour, Omar ibn Khattab, lors de son califat, avait entendu que des personnes buvaient de l'alcool en cachette. Et il s'était mis derrière la porte en attendant qu'il commence à boire et qu'il y ait du bruit. Et quand il a entendu qu'ils avaient commencé à boire, il aurait escaladé le mur. On sait que les maisons à l'époque, il y avait souvent des petites cours à l'intérieur. Et donc, quand on escalade le mur, on atterrit dans la cour. Et il aurait atterri dans la cour avec son bâton. Et les ayant pris en flagrant délit en train de boire de l'alcool, il aurait commencé à les frapper. Et là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, une des personnes lui dise nous, on a certes commis un péché, mais toi, tu as commis un péché avant nous. Et Omar s'arrête à ce moment-là en demandant quoi. Et la personne lui aurait dit, avec bon, ce débat sur l'authenticité de ce texte, mais tu es rentré sans nous demander l'autorisation de rentrer. Et là, Omar aurait tendu le bâton à la personne en lui demandant de rendre les coups qu'il avait donnés et il serait reparti. Donc, ça illustre, j'ai envie de dire, en termes de petite anecdote, Le fait que parfois on arrive à des conflits parce qu'on se permet de rentrer dans un espace et on a envie de savoir, on est beaucoup dans le contrôle et dans la maîtrise alors qu'on n'a pas le droit. Chacun a son propre cheminement et on se doit de respecter le fait que chacun a ses propres péchés aussi et ses propres travers. Est-ce qu'on aimerait que nous, nos péchés soient dévoilés? Non. Alors il faut aussi avoir cette attention. Et ça, c'est valable, pas uniquement dans l'espace privé au sens physique du terme. Aujourd'hui, le sens physique du terme, c'est beaucoup lié à nos téléphones, mais pas uniquement au téléphone. C'est son appartement, sa maison, son. Peu importe, chacun a droit à cet espace privé-là et a droit à son intimité qui lui soit propre. Mais justement, je vous disais, cette sourate, elle fait le lien. Dans cette sourate, on a un lien avec le verset 12, où Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque une autre forme de la vie privée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui portez la foi, évitez de trop conjecturer. C'est aussi, à un moment donné, un problème parce qu'on touche à la vie privée quand on fait van, c'est quoi? On commence à être dans la spéculation. La personne qu'on a en face de nous dit, ah, moi j'ai fait ça pour telle raison. Et nous, pensant mieux comprendre ce que la personne est réellement, on va dire, non, mais elle dit ça, mais en vérité, moi je sais que c'est pour ça. Hein, c'est ce qu'on appelle van. C'est-à-dire qu'on a une part de conviction parce qu'on connaît tellement bien la personne qu'on pense que c'est ça, d'accord? Mais on ne sait pas, on n'a pas d'éléments factuels permettant de prouver ce que la personne a dans son cœur. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la manière dont il le traduit, il dit qu'une partie d'adhan est un mal. Dans le sens où, en fait, il se peut que dans la grande majorité des cas, vous ayez raison. Mais ce n'est pas le propos. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous détourner de tout ce qui est adhan. De kathira min adhan plutôt. Et donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, en réalité, dans ces conjectures-là, de toute façon, on n'a pas d'éléments tangibles. Et à partir du moment où on n'a pas d'éléments tangibles, on ne peut pas se permettre de rentrer dans le cœur de la personne en disant la personne a fait telle chose pour telle raison, ou en réalité, moi je sais que son excuse n'est pas sincère, ou en réalité, je sais qu'elle a dit ça, mais pour ça, etc. Il faut s'arrêter à des éléments factuels si à un moment donné, on veut sortir du conflit. Et parfois, certes, on peut penser que la personne qui est en face de nous n'est peut-être pas sincère, a fait ceci pour cela, etc. Et on connaît peut-être très bien la personne, mais c'est nous qui sommes en tort quand on se permet à un moment donné de spéculer. Ça fait partie aussi de la préservation de la vie privée. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala va plus loin dans le verset, puisqu'il dit « Wala tajassas, wala yaghtab ba'dukum ba'dan » et ne vous espionnez pas, et donc ça, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, donc ça, on est clairement dans la préservation de la vie privée, et ne médisez pas les uns les autres. Alors, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, c'est pas simplement la médisance. La médisance, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, et Allah subhanahu wa ta'ala interdit la calomnie et la médisance. La calomnie et la médisance, c'est de parler en mal d'une personne devant elle, et la calomnie, c'est derrière son dos. Dans les deux cas, de toute façon, c'est un mal. Sauf si on est dans une discussion privée et qu'on a des cas de vérité à dire à une personne, ou qu'il faut même les dire parfois devant témoin parce qu'il y a un conflit qu'il faut régler, etc. Ça, il n'y a pas de souci. On n'est pas dans le fait d'humilier la personne en public. Hein, les seuls cas où on peut dire quelque chose de mal en public sur une personne, c'est quand on a affaire à quelqu'un qui va nuire à d'autres personnes et qui s'est prononcé en public et qui risque de faire quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui se présente pour une élection, je dis n'importe quoi, bon, c'est pas forcément le meilleur exemple que je donne, mais et qui dit des mensonges, ben là, à ce moment-là, on doit les corriger en public. Mais en dehors de ce cas-là, la règle, ça reste quand même la question privée. Donc, quelqu'un qui s'avance en public doit être corrigé en public, par contre. Mais je reviens sur mon exemple, là, yartab bardukum barda, c'est pas uniquement la calomnie et la médisance. Et on sait tous que c'est mal en réalité, ce genre de choses, et même d'y participer et simplement d'écouter. Voilà, yartab bardukum barda, c'est que parfois on va avoir juste la petite expression, ou le petit mot qui fait qu'on met la personne en face de nous en porte-à-faux, ou le petit regard qui fait que on n'a rien dit, mais on en a suffisamment dit pour que les gens comprennent qu'il peut-être y a un problème ou que ça fasse naître une suspicion chez les personnes qui sont autour. Et ça, on a mis la personne dans une forme de gêne. Voilà, yartab bardukum barda, c'est plus ça que de la médisance pure. La médisance pure, c'est clairement un tel, je sais qu'il a commis tel péché. Ok, là on est dans de la médisance, c'est grave, on n'a pas à le faire. Mais on est en train de parler d'un sujet, des gens qui ont des dépendances, machin, etc. Et moi, je vais regarder la personne en faisant un petit hochement, en faisant comprendre que, comme un tel, par exemple. J'ai rien dit, mais en fait, j'en ai dit suffisamment pour que les personnes comprennent qu'il y a un problème. Et ce genre de situation, surtout dans les situations de conflit, on va envoyer le petit pic qu'il faut pour pouvoir faire en sorte de blesser la personne ou de toucher la personne en se donnant l'illusion qu'on n'est pas coupable. Et ça, c'est grave en réalité. C'est que nous aussi, on a une part de responsabilité à ce niveau-là. Ce qui veut dire que dans la manière dont on gère les conflits, il faut faire très attention parce que parfois, certes, il y a des personnes qui peuvent mal agir, mais nous, on peut mal gérer l'épreuve aussi à certains moments. Il faut faire très attention à ça parce que les deux ont une part de responsabilité dans ce genre de situation. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala prend un exemple. Est-ce que vous aimeriez manger la viande de votre frère mort alors que non, vous le détesteriez? C'est-à-dire que en tant que musulman, on a un respect du mort en réalité. On ne va pas se permettre de. Bon, dans certains cas, certains n'ont même pas ce respect-là, mais dans la majorité des cas, les gens ont quand même le respect du mort. Ils ne vont pas calomnier sur un mort au moment de ça, alors que le corps est devant nous, on est en train de l'enterrer, etc. Et donc, on a ce respect. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que avoir le respect d'un mort alors que son âme n'est plus là, c'est avoir une forme d'incohérence par rapport à ce que l'islam nous enseigne, pas de ne pas respecter le mort, hein, bien entendu qu'il faut respecter le mort. Mais un vivant dont l'âme est présente, c'est encore plus important. On devrait de respecter. Et il prend l'exemple de manger la chair, mais parce que la chair est beaucoup moins importante que l'âme. C'est-à-dire qu'un être vivant qui a son âme en lui, ne pas le respecter, est beaucoup plus grave que ne pas respecter un mort dont il n'y a plus l'âme qui est présente. Tu manges la chair, c'est grave, ça se fait pas, d'accord? Mais manger l'âme de la personne, c'est encore plus grave. Et donc, on a besoin à un moment donné de percuter sur ce à quoi on donne de l'importance. On est beaucoup focalisé sur des choses visibles et matérielles, et on oublie la dimension invisible des choses et l'impact que ça a que de parler en mal d'une personne, que de toucher à son espace privé, et des conséquences dans le monde invisible, y compris sur nos propres cœurs. Et donc la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala est vigilante. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est accueillant, repentir et miséricordieux. Et on voit bien dans cette fin de verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ces éléments, pas pour nous culpabiliser, mais pour nous permettre d'être dans une démarche de conscience. Et il nous montre que la voie du repentir est possible et qu'on peut tous se corriger. Hein? Donc c'est un processus éducatif qui est en cours et pas un processus d'incrimination, en fait, d'une certaine manière. Donc voilà, je pense, dans la manière dont on gère nos épreuves, parfois on est souvent dans le fait de chercher à déterminer la culpabilité de l'un ou de l'autre. Et quand on n'y arrive pas d'une manière, on cherche à pointer du doigt d'une autre manière et on va même essayer de trouver les arguments ou les preuves ou ceci ou cela, et parfois sans respecter les règles de l'islam. Alors que cette notion d'espace privé, elle est très très importante. Et on oublie parfois que la solution vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vient d'Al-Baraka et de la manière dont on agit dans la situation de l'épreuve, et que c'est ça qui va permettre de solutionner plus que le fait de démontrer que l'autre a tort. Et ça, je pense que c'est un enseignement important avec lequel on doit renouer, surtout à notre époque où malheureusement on voit que beaucoup de conflits ne respectent pas ces règles fondamentales. Je sais pas ce que ça fait écho chez toi, Abdelrahman, mais ce à quoi ça fait écho chez toi.
C'est vraiment intéressant. Et puis, tu évoquais surtout au début le fait de respecter le temps. Donc là, c'est le temps privé, mais de manière générale, en fait, il y a un gros challenge d'organiser son temps. De manière générale, surtout quand on travaille pour l'entreprise, où les temps sont définis. Puis après, voilà, on a un peu de temps avant, un peu de temps après. Et il faut savoir mettre des limites, que ce soit entre le travail et la vie privée, entre la vie privée, entre ça, son épouse et ses amis. Voilà, il y a plusieurs temps, en fait. Il faut essayer de compartimenter au mieux sans casser les sensibilités, notamment au niveau de la famille. Bon, au travail, c'est un peu moins. On s'en fiche un peu, on va dire, mais même le travail, c'est difficile des fois de dire, voilà, je réponds pas au téléphone après telle heure. C'est le temps consacré à la famille. Dans ces versets, ça parle plutôt à ceux qui enfreignent, mais parfois, dans certains cas, c'est nous qui devons mettre des limites. Comme le travail, c'est pas le travail qui va nous dire on respecte votre temps. Il faut savoir imposer des limites et ça fait partie des droits en fait de chacun, des droits de la famille, etc. à respecter. Et c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que pour moi c'est parfois un challenge. Des fois c'est temporaire. Des fois par exemple on peut avoir un projet au travail qui arrive qui est plus demandant. Et puis ça se voit qu'au niveau de la famille, voilà, on se rend compte qu'on est moins disponible et vice versa. Et donc, je pense que c'est un challenge que tout le monde peut avoir au quotidien. Ensuite, tu parlais du fait de faire attention à ce qu'on dit sur les gens et de son attitude aussi, même avec les gestes, avec la gestuelle, avec les grimaces, etc. Et aussi sur la médisance de manière générale ou voilà, l'attitude qu'on renvoie à la personne. Ça m'a fait penser à une citation d'une personne, je crois que c'est Eleanor Roosevelt qui disait ça. Les grands esprits discutent les idées. Les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. Et à chaque fois maintenant que je me retrouve dans un environnement, un dîner ou je sais pas en famille ou avec d'autres personnes, des amis, etc., et que je vois que les gens commencent à parler d'autres personnes, ça me revient toujours en tête cette citation, le fait de là je fais quoi là en fait je parle de personnes, c'est mondain, c'est inutile, ça apporte rien de bon. essayons au moins de parler d'événements, essayons de parler de quelque chose de qui voilà, et au mieux, essayons encore mieux de parler d'idées, de changer les choses, d'améliorer les choses, de proposer des solutions, etc. Donc voilà ce qui me revient à l'esprit. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire par rapport à tout ça.
Si, bah, alhamdoulilah, en fait. En tout cas, après, c'est vrai que sur la question du temps, spécifiquement, l'espace privé, c'est beaucoup plus que la question du temps, mais sur ce point spécifique, c'est pas évident parce que l'islam, c'est la culture du lien et tout se relie, en fait. Et on doit faire des passerelles. Et en même temps qu'on doit faire des passerelles, on doit savoir aussi mettre des limites où chacun il a le droit à son espace privé. Donc, c'est pas si évident que ça. Je sais que c'est un défi compliqué, surtout dans des sociétés qui, très paradoxalement, sont très. Le système individualiste, c'est pas un système individualiste qu'au sens humain du terme, c'est-à-dire qu'on découpe tout, même la manière dont nos routes sont construites, ce sont des routes qui divisent, ce sont pas des routes qui relient. On sectorise beaucoup, même dans la manière dont on gère le rapport au travail, les départements dans les entreprises, on sectorise, on compartimente, etc. Alors que c'est pas forcément la tradition musulmane de base, cette approche-là. On est beaucoup plus dans le lien. Et très paradoxalement, bah, le fait de sectoriser beaucoup, etc. Ne nous rend pas service sur la manière dont on pourrait gérer l'espace privé. D'ailleurs, je donne un exemple sur la question du travail avec l'éclosion du télétravail, mais même avant ça, hein, des personnes qui avaient des postes de cadre, etc., c'est très envahissant, en fait. Le travail est très envahissant, même psychologiquement, même dans la tête, en fait, sans parler même de. Donc, c'est les paradoxes de la société moderne, en fait, hein, qui rejaillissent. Et c'est vrai qu'après, arriver à prendre un pas de recul et renouer avec d'autres approches, où certes on est beaucoup plus dans le lien, mais ce lien justement doit permettre à un moment donné de dire non, là stop, il y a un seuil limite, ça ne te concerne plus, ça concerne, c'est mon champ à moi, et même l'organiser. Hein, le prophète avait ses moments privés à lui, qui lui appartenaient, et parfois ses moments privés, il les partageait avec d'autres, notamment par exemple ses prières de nuit ou des choses comme ça. Donc c'est important. C'est important qu'à un moment donné on arrive à redéfinir les espaces, redéfinir les temps, etc. Mais alhamdoulilah, je pense que il y a une prise de conscience, en tout cas, du fait que il y a beaucoup de choses qui vont pas dans les rythmes actuels et dans les modes de fonctionnement actuels. Après, on n'a pas forcément toujours les leviers pour pouvoir actionner les changements. Bon, ça, c'est difficile sur une courte vidéo de s'étaler autant, mais il y en a, ça existe.
Ouais. Bah écoutez, faites-nous savoir, envoyez-nous un message si cet épisode vous fait écho. Et aussi, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks, des retours. En tout cas, on approche de la fin de l'épisode. Fatala, je te remercie. Je vais te laisser conclure, Inch'Allah. Et puis, on continuera la prochaine fois avec la suite de la sourate Al-Hujarat.
On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans tout ce qu'on entreprend. On demande de nous accorder une parole juste et véridique et utile et bénéfique. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire qu'on soit parmi ceux qui disent et qui agissent et qui font, de nous faire rentrer au paradis sans décompte, de nous réunir avec le prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que nos familles respectives dans les plus hauts degrés du paradis. De nous préserver de nos propres défauts, de nos propres péchés, de nos propres manquements et de nous pardonner. Nous demandons à Allah de cacher nos défauts et de cacher les défauts de nos frères et de nos familles et des croyants. Nous demandons à Allah de soutenir tous ceux qui subissent des injustices sur terre et notamment en Palestine, de les aider, de leur accorder sa protection, de leur accorder son soutien, de leur accorder son secours. Nous demandons à Allah la rectitude en toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم أجر جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذب بنار يا عزيز يا رحمن وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله
الحمد
فيكم
لله رب العالمين وفيك بارك الله بيانتو ان شاء الله تو الموند بيانتو فتح الله
أبيانتا
السلام عليكم
أبيانتا شو مسألة